Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes en partenariat avec Amadeus Piano. Une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue et merci d'être toujours fidèle à Mélomanie. Ravi de saluer aussi les nouveaux auditeurs du magazine de l'actualité musicale toulousaine et régionale. Il y a encore un programme très consistant pour ce numéro, que ce soit pour les concerts de la semaine passée ou ceux de la semaine à venir. Le mois de mars est particulièrement généreux dans ce domaine. Beaucoup d'événements à commenter et à présenter, mais nous n'allons pas nous en plaindre. Trois mélomaniacs ont accepté de se plier à l'exercice. J'ai donc le plaisir de recevoir aujourd'hui Anne-Marie Chouchan, chroniqueuse musicale à la Dépêche du Midi, Serge Krichewski, oboïste de l'Orchestre National du Capitole, chef de l'Orchestre En Harmonie et membre fondateur des Clés de Saint-Pierre, et Robert Pénavert, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, également chroniqueur pour Culture 31 et les journaux Côté Toulouse et La Voix du Midi. Avec ce trio chic de choc, nous accueillons celui qui est l'invité d'honneur de ce numéro, Alain Lacroix, fondateur et directeur artistique de la Saison Bleue. Il est venu parler avec nous des prochains concerts de cette saison, ce que nous allons faire en seconde partie d'émission. Bienvenue à vous quatre, merci pour votre présence dans ce studio. Nous enchaînons tout de suite avec l'actualité musicale de la semaine dernière, à laquelle nous allons consacrer la première partie de ce numéro.
Mélomanie. Retour arrière.
Dimanche et lundi, il y avait à la Halle aux Grains deux concerts, mais dans des circonstances très différentes. Si lundi soir, il s'agissait bien d'un des concerts de la saison de l'Orchestre National du Capitole, dimanche après-midi, c'était celui de la Musica Orchestra Academy. Anne-Marie Chouchan, vous y avez assisté, et comme je pense que beaucoup de nos auditeurs ne savent pas très bien ce qu'est la Musica Orchestra Academy, il faudrait déjà nous expliquer de quoi il retourne.
Oui, en résumé, c'est une formation de jeunes musiciens qui donnent là leur concert de fin de... C'est pas un stage, c'est une académie qu'ils effectuent dans la région sous la direction de Pierre Bleuze, qui est également...
C'est lui le fondateur, je crois.
C'est lui le fondateur. Donc, ce sont des jeunes musiciens issus de divers conservatoires de Toulouse, mais aussi au-delà, et même de diverses régions de France, qui se réunissent pour approfondir un petit peu ou être sensibilisés au métier de l'orchestre. Donc, le concert de clôture de cette session se déroule donc à la Halle aux Grains, une fois par an, et ça permet d'entendre ce jeune orchestre qui, en général, est de très belle tenue sous la direction de Pierre Bleuze, qui a fondé cette académie. Et donc là, le concert était comme les autres années. Je dis de belle tenue parce que le travail qui s'effectue pendant ce stage porte toujours ses fruits, prépare un programme qui est souvent très exigeant. Et là, c'était un programme avec l'adagietto de la 5e symphonie de Mahler. Ensuite, ils ont accompagné Béatrice Auriemmonzon dans les Rucker Lieder du même Mahler. Et ensuite, ils ont donné quasiment l'intégrale du Don Quichotte de Prokofiev, du fameux ballet, ce qui faisait un programme, disons, très costaud, pour lequel ils ont montré que déjà, ils avaient acquis peut-être certaines qualités nécessaires pour faire partie d'un futur orchestre et rentrer dans un orchestre après plus professionnel. Mais là, c'était déjà une bonne qualité, disons.
Et c'était le dimanche après-midi, donc est-ce que le public était au rendez-vous ?
Oui, mais c'était pas tout à fait complet. Il y avait une moitié de la Halle aux Grains. Mais en général, les gens apprécient beaucoup, d'autant plus qu'il y a aussi les familles qui viennent écouter les jeunes musiciens. Donc, c'est toujours...
Il y a un côté familial, je suppose.
Il y a un côté familial, mais en même temps, les gens apprécient d'avoir un concert qui est de haut niveau, parce que ce ne sont pas des œuvres aussi simples que ça à jouer et que c'est de belles tenues.
Comme on a un musicien avec nous, un musicien de l'Orchestre National du Capitole, Serge Krichewski, ce principe de cette école européenne des métiers de l'orchestre, c'est l'intitulé exact, qu'est-ce que vous en pensez ?
École européenne, je ne le savais pas.
École européenne des métiers de l'orchestre.
Bon, oui, oui, mais alors de toute façon, depuis maintenant, on va dire 35 ans, il y a eu une quantité d'orchestres de très haut niveau qui a pu être montée avec des jeunes, et sur un principe tournant, c'est-à-dire que d'une session à l'autre, d'une année à l'autre, l'orchestre n'est jamais le même. Il y a même un noyau parfois volatile. Il y a eu le célèbre Orchestre des Jeunes de la Communauté Européenne, puis l'OFJ, donc qui est maintenant bien ancré dans le paysage français. Donc cette Musica Academy est maintenant basée en particulier sur les conservatoires des régions du Sud-Ouest, hein, donc des grandes villes du Sud-Ouest, et elle a permis d'une certaine manière de prendre le relais de ce que l'association AIDA permettait aux jeunes musiciens de faire dans les pupitres de l'Orchestre du Capitole, si je ne dis pas de grosses bévues, de grosses erreurs. C'est certainement une expérience importante hein, pour les jeunes qui ont des encadrants qui viennent de l'Orchestre du Capitole, mais parfois peut-être aussi des orchestres de Bordeaux, de Montpellier, et ils se frottent à des programmes très ambitieux, donc je ne doute pas que le résultat soit d'un bon niveau.
Alors, on va refermer la parenthèse Musica Orchestra Academy. Lundi soir, c'était donc l'Orchestre National du Capitole qui prenait le relais avec le retour de Tougan Sokiev à la direction. Il y a un petit moment qu'on ne l'avait pas vu à la baguette. Ils accompagnaient le violoniste russe Vadim Repin pour la première œuvre au programme de ce concert. C'était le concerto pour violon de Glazounov. En seconde partie, c'est la symphonie numéro 12 de Chostakovitch qui a été jouée, celle qui est sous-titrée L'année 1917. De nouveau, Anne-Marie Chouchan, vous étiez là. Vous qui aimez beaucoup la musique russe, celle de Chostakovitch en particulier, quelle soirée vous ont fait passer Vadim Repin et l'Orchestre National du Capitole ?
Disons que le concerto de Glazounov n'offre guère de surprises sur le plan violonistique. Il y a des choses très agréables à écouter, il y a une certaine virtuosité, mais l'œuvre en elle-même n'est pas forcément marquante. Vadim Repin la joue, je pense, comme on peut jouer cette œuvre, même si elle n'est pas d'un intérêt exceptionnel. Il devait jouer d'ailleurs le concerto pour violon de Tchaïkovski, il y a eu un changement de programme, donc il y a ce concerto de Glazounov qui était agréable à écouter. Par contre, la symphonie 1917 là, de Chostakovitch, qu'on ou pas Chostakovitch, le public a été très très sensible de toute façon au fait que l'orchestre dans cette œuvre montre une maîtrise orchestrale qui est plus que fabuleuse, puisqu'ils ont donné le même concert le lendemain à la Philharmonie de Paris et qu'il y a eu un accueil vraiment enthousiaste. Ils ont même donné 2 bis. Donc l'œuvre elle-même, elle est assez spectaculaire, c'est vrai, puissante comme peut l'être Chostakovitch. C'est une œuvre que l'on ne considère pas comme l'une des plus réussies ou l'une des plus ambiguës du compositeur. Elle semble plus proche de ce qu'on peut appeler une œuvre dite de commande, mais je crois qu'elle a une grande force expressive et que l'orchestre a joué ça avec une grande force aussi expressive et une technique exceptionnelle, bien sûr, dans ce répertoire. Et le public était ravi, que ce soit Chostakovitch ou un autre compositeur. Je pense que quand la musique est forte, qu'elle apporte quelque chose de puissant, on ne peut pas ne pas être sensible à une telle œuvre.
Apparemment, Tougan Sokiev lui a donné par sa direction une dimension particulière lundi soir.
Oui, il y avait une grande force expressive, et je trouve qu'il s'est même lâché, puisqu'à une époque, c'était un garçon qui donnait pas la sensation de toujours vouloir s'engager. Là, il avait beaucoup de force dans sa direction, il a lâché souvent sa baguette, et il avait envie vraiment de s'investir dans cette œuvre, même si je ne crois pas que le thème de la Révolution de 1917 l'inspire uniquement. L'œuvre en elle-même se passe de cette référence. C'est une œuvre, je crois, qui en soi a des qualités plus que symphoniques et même expressives, au-delà de son propos.
Oui.
La vie du musicien.
Non, mais alors, je n'étais pas dans ce concert, malheureusement, mais c'était juste par rapport à ce que disait Anne-Marie à l'instant. Depuis Berlioz et la Symphonie Fantastique, on peut même dire déjà depuis les 4 saisons, en fait, le programme doit être oublié, même une fois qu'on l'a lu, puisque la symphonie numéro 12 a un programme explicite avec l'année 17, mais il y a toujours un moment, que ce soit chez Chostakovitch, Berlioz ou Strauss, où on peut se passer de ça parce que la musique dépasse tout argument préexistant, qu'il soit littéraire, historique ou parfois pictural, même pour Liszt.
Oui, Anne-Marie, vous vouliez ajouter quelque chose.
C'est exactement ce que vient de dire Serge. Je l'avais écrit dans un article. Je disais, peu importe qu'on fasse référence à Lénine aujourd'hui, peu importe. Je pense qu'on peut parler, peut-être que ça concerne quand même l'histoire du XXe siècle, qui est quand même une histoire, on peut dire, pleine de tragédies. Et en même temps, c'est vrai que cette œuvre, comme vient de le dire Serge, le programme, au bout d'un moment...
Voilà. Bon. Juste une petite chose, il faut quand même dire que ce n'est pas le cas de tous les compositeurs qui réussissent à faire oublier le programme pour lesquels ils ont écrit.
Peut-être un mot sur Vadim Repin, le violoniste.
Très grand violoniste qui a été un jeune prodige, qui était ami d'Evgeny Kissin. Enfin, on les a vus très jeunes dans des sonates, des choses très flamboyantes. Et puis, c'est vrai qu'après, bon, il a peut-être des périodes un petit peu moins intenses. Chaque artiste, quand la maturité vient, on a parfois des moments de... Mais bon, je pense qu'il y a toujours, de toute façon, une solidité qui est là. Oui, on a eu l'impression ces dernières années qu'il était peut-être un tout petit peu moins ardent, un peu moins présent physiquement, peut-être.
Bien, on va revenir à Chostakovitch et à sa 12e symphonie, l'année 1917, en écoutant un extrait interprété par l'Orchestre National du Capitole sous la direction de Tougan Sokiev. Thank you. Le début du premier mouvement de la symphonie numéro 12, l'année 1917 de Dmitri Chostakovitch, interprété par l'Orchestre National du Capitole sous la direction de Tougan Sokiev, la seconde œuvre au programme de leur concert donné lundi dernier à la Halle aux Grains. Après la grande musique symphonique russe, nous allons maintenant parler de la belle musique de chambre française avec l'un de ses plus illustres représentants, celui dont on commémore cette année le 100e anniversaire de la mort. J'ai nommé Claude Debussy. Mardi, à l'auditorium du Musée des Abattoirs, il y avait un concert de la Saison Bleue, organisée par Alain Lacroix ici présent. C'est un jeune trio qui se produisait, formé par la violoncelliste Christine Lee, le violoniste Nathan Mierdel et le pianiste Jonathan Fournel. Ils ont joué un programme entièrement consacré à des pièces de Debussy. Dans l'ordre, il y avait la sonate numéro 1 pour violoncelle et piano, les estampes pour piano seul, la sonate numéro 3 pour violon et piano et le trio pour violon, violoncelle et piano. Un très joli programme pour qui aime Debussy, interprété par trois excellents jeunes musiciens. Et là, je vais demander à Alain Lacroix de nous en dire un peu plus, parce que la programmation de la Saison Bleue ce mois de mars est un peu particulière. Expliquez-nous pourquoi.
Je pense que déjà, il y a une signature de cette saison, c'est la découverte de jeunes interprètes. On y est très attaché et souvent de faire entendre à Toulouse soit des jeunes qui sont issus du conservatoire et qui ont grandi. Souvent, on les a, puisqu'on a inventé cette saison il y a 14 ans, en partant du principe qu'on allait, en musique de chambre, avoir un grand référent qui allait soit parler d'un compositeur, soit parler d'une œuvre. Donc, on a eu Philippe Cassard ou Jean-François Zigel qui étaient là pour expliciter. Et ensuite, on est parti du principe qu'on allait inviter deux jeunes lauréats de concours internationaux. Et le dernier, mardi, toujours consacré à des gens du conservatoire. On a pris le pari que les gens du conservatoire deviendraient des lauréats de concours internationaux. Et en 14 ans, on en a eu quelques-uns. On a eu Fabrice Milichère, on a eu Adam Laloum, on a eu des quatuors comme le quatuor Modigliani, on a eu Anaïs Constant, on a eu Thibaut Garcia. Tout ça a démarré quand même à Croix-Baragnon. Et après, ils ont fait leur chemin. Et ça, c'est Nathanaël Gouin. Là, on a François Moschetta qui est en train de démarrer. On a véritablement à Toulouse cette chance-là d'avoir une école de chambristes et de musiciens classiques grâce au conservatoire, grâce à l'orchestre aussi, parce que souvent, il y a des enfants des solistes de l'orchestre qui deviennent des grands solistes. Et ça, c'est assez...
C'est le cas de Fabrice Milichère, par
exemple. C'est le cas de Fabrice. Enfin, bon, il y en a beaucoup. Et ça, c'est vraiment intéressant. La deuxième chose, je suis toujours attentif aux années. Donc, année Debussy, pour moi, c'est important. Et il y a quelque chose auquel aussi je suis très, très attaché, c'est la musique française. Parce que je trouve qu'à l'étranger, on la joue beaucoup, mais pas suffisamment en France. Surtout la musique de chambre. Voilà, donc Philippe Cassard qui vient depuis quelques années à Toulouse, et on connaît quand même l'affinité de Philippe avec Debussy. Il a enregistré l'intégrale.
Oui, on va en parler tout à l'heure.
Voilà, et je lui ai fait faire dans le festival Toulouse d'été il y a quelques années l'intégrale sur une journée. C'est une de ses spécialités, de l'œuvre pour piano de Debussy. Je lui ai demandé, il vient le 13, donc il va présenter Debussy, un Debussy un peu particulier en miroir. Mais je lui ai demandé, je lui ai dit, écoute, puisque tu es le spécialiste de Debussy, quels sont les jeunes solistes que tu vois à l'heure actuelle, que tu me recommanderais? Et en fait, c'est presque une carte blanche qu'on lui a donnée. Et donc, il nous a présenté Nathan, Christine et Jonathan, et le quatuor Hanson qui viendra le 20 mars, lui étant intercalé le 13. Donc voilà, c'est un peu cette histoire qu'on a voulu raconter ce mois de mars qui marque ce centenaire.
Mois de mars, Debussy, avec des propositions de Philippe Cassard.
Tout à fait.
Toutes les suggestions du mois de mars, c'est Philippe Cassard. Alors, je voudrais qu'on écoute une des œuvres qui a été jouée donc mardi, cette superbe sonate numéro 1 pour violoncelle et piano de Claude Debussy. Et au violoncelle, c'est justement celle qui tenait le violoncelle mardi dernier, Christine Lee, que l'on va entendre. Thank you. La sonate numéro 1 pour violoncelle et piano, interprétée par Christine Lee au violoncelle, la même qu'elle a jouée avec Jonathan Fournel au musée des abattoirs mardi. Nous allons reparler de la saison bleue et de ses prochains concerts avec vous, Alain Lacroix, dans quelques instants. Avant cela, petite incursion lyrique avec Robert Penaver, bien entendu, qui veut nous présenter le prochain concert diffusé en direct du Met de New York par les cinémas Gaumont-Labège et Wilson ce samedi 10 mars à 8h55. C'est Sémiramis de Rossini qui est donné. Robert, présentez-nous cette production comme vous savez si bien le faire.
Merci Eric. Donc je vais vous présenter la petite incursion lyrique qui est l'une des œuvres majeures de Rossini. Alors juste deux mots sur l'œuvre, hein, puisque c'est la dernière œuvre italienne de Rossini. Je parle évidemment au point de vue géographique, puisque après cette œuvre, il a 31 ans, il a déjà un corpus de 33 opéras à son répertoire et pas rien du tout. Il y a le Barbier de Séville, il y a Tancrède, il y a Otello, il y a le Cenerentola, etc. Donc c'est pas rien du tout, mais il décide de quitter l'Italie. Alors il avait un premier projet, c'était de partir à Londres. Fort heureusement, ça ne s'est pas passé. C'est nous qui l'avons récupéré à Paris jusqu'à la fin. Hein. Et donc, ses adieux à l'Italie, c'est avec cette Sémiramis qui est tirée comme Tancrède d'ailleurs de l'œuvre éponyme de Voltaire. Et elle n'a pas connu lors de sa création à Venise un franc succès. À mon avis, lié à la créatrice Isabella Colbrand, qui était en fin de carrière, surtout si l'on en croit les propos de Stendhal à son sujet, que je n'oserais même pas répété à ce micro. Je parle de la voix. Voilà. Mais de suite après, l'œuvre a été adoptée dans le monde entier, à Vienne. Et donc, c'est devenu une des œuvres majeures des opéras de Rossini, alors qu'il fait partie des opéras seria. Il a écrit des opéras bouffa, puis des opéras seria. Bon, voilà. Enfin, je ne sais pas tout à fait des opéras seria, mais enfin, c'est ce qui se rapproche le plus des opéras avec utilisation de travestis, avec des thématiques qui mettent le roi en valeur. Bon, bref, avec des interventions divines. Alors, sur cette œuvre, tous les musicologues sont d'accord pour reconnaître que, a priori, Rossini a été fortement influencé par Don Giovanni de Mozart, en particulier le personnage du commandeur, avec autant en termes de personnalité dramatique qu'en termes d'écriture vocale, avec des notes très longues, très tenues, recto tono. Bon, voilà. Alors, c'est vrai, c'est pas vrai, je ne sais pas. Quand on l'écoute, c'est évident. Et Rossini a entendu le Don Giovanni de Mozart. Ce qui est sûr aussi, c'est que cette œuvre est un tournant dans l'art lyrique italien et que Bellini, Donizetti et même Verdi l'ont fortement et longuement écouté vraisemblablement. Alors, c'est une œuvre qui est faible dramatiquement. N'ayons pas peur des mots, c'est une œuvre qui comporte dans sa dramaturgie un couple qui ne veut rien dire du tout ou à peu près. Malheureusement, il est là. Enfin, je dis malheureusement dramatiquement, parce que vocalement, le ténor, qui est un rôle, franchement, qui n'a pas grand intérêt dramatiquement, mais vocalement, il a des airs magnifiques. Mais c'est vrai qu'il ne sert qu'à ralentir l'action, le malheureux. Voilà, c'est comme ça, et puis il fallait un rôle pour un ténor. Rossini, c'est quand même recentré sur un trio infernal, qui est le rôle de Sémiramis, le rôle d'Arzace, qui est un rôle travesti. Donc c'est un mezzo contralto qui chante le rôle d'un jeune commandant de l'armée et Assur qui est un prince qui veut à tout prix prendre le pouvoir. Alors l'histoire en gros, mais vraiment très gros, Sémiramis et Assur se sont mis ensemble pour assassiner le mari de Sémiramis, ce pauvre roi Nino. Et tous les deux avaient eu auparavant un fils, Nina, qui a disparu dans la nature. En fait, Nina revient pas mal d'années après, et c'est Arzace. Sa mère ne le reconnaît pas et demande sa main. Bon, ça commence à devenir un peu tordu, il faut le reconnaître. Et bien, voilà. Donc, glissons sur la dramaturgie et reconnaissons que c'est un opéra dans lequel Rossini a écrit des duos et des airs, mais vraiment absolument sublimes. Mais sublimes. Alors, par rapport à ses airs et à ses duos, par contre, il n'a pas écrit de trio, de quatuor, voilà, bon, c'est comme ça. Hein. Alors, tout le monde connaît le bel Raggio Lusinghiere, mais il n'y a pas que ça dans cette Sémiramis, il y a bien, bien d'autres choses. Et donc, c'est un opéra qui ne tient que par les voix. Et très peu de les castes qui arrivent à rendre justice à une telle partition sont rarissimes. C'est pour ça, peut-être, que ce n'est pas très souvent donné. La dernière fois que c'était donné au Capitole, c'était lors de la saison 89-90. Et très honnêtement, sans entrer dans le détail, j'en ai un souvenir plus que nuancé. Les dernières grandes reprises en France, ben, c'était très clairement Aix-en-Provence. Hein. En 1980, si je ne me trompe, c'était le duo qui associait Montserrat Caballé et Marilyn Horne et qui a été l'un des deux mythiques qui ont succédé au duo John Sutherland et Simeonato quelques années après. Alors, que nous propose le Métropolitain, parce que quand même, il faut y arriver, bien évidemment.
D'abord, les voix.
Les voix. Alors, la production, tout d'abord, bien écoutez, vous n'allez pas être déçus, parce que c'est une production qui mène à une trentaine d'années, ce qui est signé John Copley, et ça fait encore partie de ces productions dont le Métropolitain ne peut pas se passer, bien que ce n'ait jamais été repris depuis 1990, quand même. Mais c'est une production tout à fait fastueuse, babylonienne, c'est le cas de le dire, c'est le moment ou jamais, quand on parle de Babylone et des jardins suspendus qui faisaient partie des sept merveilles du monde. Alors, les interprètes sont rarissimes. On va passer sur les problèmes qu'il y a eu au début de cette série de spectacles, parce que le chef d'orchestre a levé le pied deux jours avant la première, Maurizio Benigni. Le ténor, c'est le matin même, il a levé le pied. Bon, mais enfin, finalement, au Métropolitain, ils ont des moyens, ils ont rafistolé les bouts, et la première, la deuxième, la troisième ont eu lieu. Mais là, nous avons, en ce samedi soir, la distribution d'origine, c'est-à-dire Maurizio Benigni revient au pupitre. Donc, c'est à la soprano américaine, vous le savez, on le sait, nous le disons ici régulièrement, les Américains font chanter les Américains. Voilà, mais c'est vrai qu'ils ont un réservoir de talent que peu de pays ont. Donc, c'est Angela Meade qui chante Sémiramide, qui est l'une des plus grandes titulaires de ce rôle absolument épouvantable à chanter. C'est la mezzo-contralto Elisabeth de Jong, qui également est américaine, qui jouera le rôle travesti, Arzach. C'est la basse russe, alors là, pour le coup, c'est une basse russe, une basse que l'on connaît tous, qui s'appelle Abrazakov, qui fera Assour, et qui prend le relais de cette autre grande basse américaine, c'est Samuel Ramey. Et voilà, le problème, c'est vrai qu'on a l'habitude d'entendre les sopranos et les ténors, c'est-à-dire les voix aiguës, faire des trilles, des arpèges, des groupettes, voilà. Mais les basses, c'est autre chose. C'est beaucoup plus difficile parce que techniquement, de base, les voix sont beaucoup plus lourdes déjà. Et donc, Samuel Ramey était extraordinaire. Je n'ai jamais entendu Abrazakov dans le rôle d'Assour, mais j'imagine que Peter Gelb l'a sélectionné, il doit y avoir des raisons. C'est Javier Camarena, le ténor mexicain, qui prend le rôle d'Hidreno, ce rôle que pendant longtemps Juan Diego Flores avait mis à son répertoire, puis maintenant le ténor péruvien a pris des rôles beaucoup plus larges, et maintenant je pense qu'il aurait quelques difficultés avec ce rôle, mais enfin, ça c'est l'évolution naturelle des voix, ça c'est normal. Et c'est Javier Camarena, donc, qui prend la succession de tous ces rôles extrêmement pyrotechniques que chantait avant Flores. Et alors, je vous demande de faire attention à une jeune basse, 32 ans, américaine, qui s'appelle Ryan Spidogreen. Je peux vous dire que c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Alors, le Métropolitain l'expose, si l'on peut dire, dans un rôle qui n'est pas un premier rôle, c'est le rôle d'Oroé, le grand prêtre. Eh bien, écoutez-le, vous allez avoir une surprise. Voilà.
Merci Robert. Je rappelle donc que Sémiramis est diffusé en direct du Met au cinéma Gaumont, La Bège et Wilson ce samedi 10 mars à 18h55. C'est là-dessus que nous concluons cette première partie d'émission. Je vous donne rendez-vous dans une minute pour l'agenda et la seconde partie que nous allons largement consacrer à la saison bleue en compagnie d'Alain Lacroix. A tout de suite.
Vous recherchez un clavier numérique ou un piano acoustique? Amadeus Piano propose les plus grandes marques au meilleur prix. Amadeus Piano est aussi la clé de vos concerts et de vos événements. Du piano droit haut de gamme au piano à queue de concert, nous mettons tout en œuvre pour vous fournir une prestation de haute qualité. Avec Amadeus Piano, la référence du service et du transport de piano à Toulouse et dans la région, bénéficiez du savoir-faire de Robert Burali, facteur de piano diplômé et accordeur du Conservatoire et de l'Orchestre de Chambre de Toulouse. Retrouvez tous nos produits et services sur amadeuspiano.fr. Amadeus Piano vous souhaite de passer un agréable moment avec Mélomanie.
C'est la seconde partie de Mélomanie avec les invités de ce numéro. Anne-Marie Chouchan, chroniqueuse musicale à la Dépêche du Midi. Serge Krichewski, oboïste de l'Orchestre National du Capitole, chef de l'Orchestre en Harmonie et membre fondateur des Clés de Saint-Pierre. Robert Pénavert, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, également chroniqueur pour Culture 31 et les journaux Côté Toulouse et La Voix du Midi. Et avec notre invité d'honneur, Alain Lacroix, fondateur et directeur artistique de la Saison Bleue.
Mélomanie. L'agenda.
Nous allons donc maintenant évoquer dans le détail les prochains concerts de la Saison Bleue avec vous, Alain Lacroix, en faisant toutefois un petit préambule, parce que pour ceux de nos auditeurs qui ne le sauraient pas, il y a eu une intersaison un peu compliquée entre la fin du printemps et l'automne 2017. Jusqu'alors, depuis sa création il y a 14 ans, les concerts avaient lieu pour l'essentiel à la salle bleue de l'espace Croix-Baragnon, tout près de la place et de la cathédrale Saint-Étienne. La mairie de Toulouse a décidé de vendre le bâtiment et de relocaliser tous les services qui s'y trouvaient. Du coup, vous avez dû vous mettre en quête de nouveaux lieux de concert et repenser votre programmation devenue entre-temps la Saison Bleue, puisque s'il s'agit toujours de la même couleur, du même esprit, l'appellation a changé. Comment tout ça s'est-il passé et où se tiennent désormais les concerts que vous organisez ?
Alors, le théâtre, c'est être saltimbanque hein, et c'est aller à la rencontre de nouveaux publics. Je trouve que c'est intéressant. Il faut toujours rebondir sur des choses qui sont belles. Donc, on a cherché des lieux. La chapelle des Carmélites, au début, on pensait pouvoir la chauffer l'hiver. Ça était un peu problématique. Donc, on avait quand même une solution B. Et donc, on est aux abattoirs. J'en profite pour remercier la direction des abattoirs. Donc, dans ce bel auditorium qui sert bien la musique. Le théâtre du Capitole pour les concerts exceptionnel, l'auditorium Saint-Pierre des Cuisines et deux lieux pour le jazz cette année, à la fois le métronome pour les grosses formations et pour les plus petites formations, l'espace Job. Donc c'est vrai qu'on se promène dans des espaces différents et toujours à la rencontre de nouveaux publics.
31 concerts dans cette saison,
oui.
Qui a commencé un peu plus tard que d'habitude.
Oui,
on a
décalé en fait. La saison est décalée puisqu'elle va, normalement on finissait la saison en avril et là on va la décaler jusqu'au 15 juin puisque mai et juin vont être au Carmélite.
Avec toujours la présence de piliers, on en a déjà parlé tout à l'heure, Philippe Cassard et Jean-François Vigel.
Oui, hier on avait Jean-François justement
à Saint-Pierre-des-Cuisines.
C'était assez incroyable parce que bon, qu'il a travaillé, puis c'était des journaux, il appelle ça journal intime. Et hier il a donné la parole pendant plus d'une demi-heure à la salle, qu'il a interrogé sur l'improvisation. Et c'était assez extraordinaire de voir les questions et de voir les réponses de Jean-François sur l'improvisation et sur la façon dont il voit l'improvisation, notamment sur la musique vivante, hein, la différence qu'il peut y avoir entre une musique du passé qu'on continue, etc. Et sur aussi la notion de public, comment à l'heure actuelle on peut aller à la rencontre de nouveaux publics et surtout toujours maintenir le feu sacré et retrouver des publics. Alors moi j'ai eu une solution justement, comment présenter à des jeunes la musique, c'est souvent en présentant des jeunes interprètes. Quand on voit Thibaut Garcia qui a 22 ou 23 ans à la guitare, c'est sûr que quand Thibaut va faire des rencontres avec des jeunes étudiants ou va rencontrer des nouveaux publics, on voit un jeune qui s'adresse à des jeunes et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enfants qui apprennent la guitare. Et donc, ils se voient, ils peuvent se projeter, etc. Et donc, ça, c'est assez intéressant. Donc, voilà.
Donc, on a parlé du pilier Jean-François Zigel. On va revenir au pilier Philippe Cassard, puisque le prochain concert de la Saison Bleue, c'est celui que donne justement Philippe Cassard le mardi 13 mars, donc mardi prochain. Deux concerts à 18h15 et 21h. À l'auditorium du musée des abattoirs, justement, dans le cadre du cycle de ces fameuses notes du traducteur. Et il l'a entièrement consacré à Debussy, il n'y a pas que du Debussy justement, mais en tout cas c'est un hommage à Claude Debussy pour commémorer les 100 ans de la mort de ce compositeur. Vous l'avez rappelé tout à l'heure qu'il admire tout particulièrement. Il vient d'ailleurs de lui consacrer un livre aux éditions Actes Sud et intitulé très sobrement Claude Debussy. Quel va être le programme de ce concert et qu'est-ce qu'on y trouve ?
Alors, c'est toujours assez intéressant. Il appelle ça note d'un traducteur, donc il va se promener dans un univers, il va comparer, il compare souvent avec la littérature, l'œuvre musicale avec la littérature, ou il va convoquer des œuvres picturales. Et là, il va se promener entre Debussy, Stravinsky, Bartok, Evans et Trottignon même.
C'est Bill, hein. On précise que c'est Bill Evans, le grand pianiste de jazz. Hein.
Voilà, donc il essaye de trouver des ponts ou des influences et il l'explique. Et je ne sais pas quelle œuvre il a choisi de Debussy, et il interprète in extenso une œuvre à la fin, généralement, de cette présentation.
Et vous savez ce qu'il va jouer de Stravinsky, Bartok, les liens qu'il va trouver parce que...
Je ne sais pas. Là, c'est souvent la surprise avec Philippe. Il arrive avec, puis voilà, il construit...
On ne sait pas ce qu'il a dans ses cartons.
Il a des choses dans ses cartons, en tout cas.
Il y a des liens qui sont parfois symphoniques aussi. Par exemple, on peut imaginer l'oiseau de feu qui va se situer en bonne place, hein, peut-être.
Et puis, il travaille beaucoup sur les enregistrements. Il peut faire écouter un enregistrement pour montrer le lien qui existe, etc.
On parle de Debussy. Il faut dire qu'il a extrêmement influencé les compositeurs de son temps, mais même les suivants. Je pense que c'est ça aussi que Philippe Cassard va sans doute vouloir mettre en évidence.
Oui, son héritage a duré très longtemps et continue probablement.
puis les diverses périodes de sa vie, quoi. C'est entre la jeunesse et la fin qui est très sombre.
Le trio, j'ai entendu donc parler dans votre programmation du trio, c'est une œuvre quand même assez rare. Enfin, on pense au trio de Ravel, mais le trio de Debussy pour violon, violoncelle et piano, c'est une œuvre qui date de l'époque de la fantaisie aussi pour piano, c'est-à-dire plutôt 1890 maximum peut-être, hein, avant, juste avant le prélude à l'après-midi d'un faune peut-être.
Oui, alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a Bill Evans là-dedans. Curieux de voir ce qu'il va...
Non, parce que oui, il a déclaré qu'il admirait beaucoup Debussy.
Souvent, les musiciens de jazz, y compris les musiciens afro-américains, ce qui n'était pas le cas de Bill Evans, ont beaucoup d'admiration pour les compositeurs français dits impressionnistes, Debussy et Ravel en particulier. Et ils aiment beaucoup Stravinsky aussi, ça j'ai souvent remarqué.
François Dumont, l'année dernière, dans le cadre du festival, nous avait fait un récital, justement, dans tout l'été, où il travaillait, il montrait enfin l'influence de la musique classique sur le jazz et les allers-retours. Et c'était assez passionnant.
Oui, je me rappelle très bien, c'était dans le cloître des Jacobins.
Voilà, tout à fait.
Magnifique concert de cet excellent pianiste qu'est François Dumont. On va écouter Philippe Cassard maintenant nous jouer du Debussy. Bon, c'est peut-être pas très original, c'est le clair de lune, le fameux extrait de la suite Bergamasque, mais c'est tellement beau, on va pas s'en priver. Le célèbre clair de lune, extrait de la suite Bergamasque de Claude Debussy, interprété par Philippe Cassard, un des morceaux qu'il va peut-être jouer mardi prochain, 13 mars, lors des concerts qu'il donne à 18h15 et 21h à l'auditorium du Musée des Abattoirs pour un nouveau rendez-vous de ses notes du traducteur où il va célébrer son cher Debussy. Le concert suivant a lieu une semaine après, mardi 20 mars, à 18h15, toujours au Musée des Abattoirs, et c'est le Quatuor Hanson qui s'y produit avec un programme intitulé En miroir. On y trouve, à côté du très beau, fameux et unique quatuor à cordes de Debussy, le quatuor à cordes numéro 1, Métamorphose nocturne de Gheorghe Ligeti. En miroir, on devine un peu pourquoi, on va en parler dans quelques instants. Est-ce que vous pouvez déjà nous présenter ce Quatuor Hanson et les quatre jeunes musiciens qu'il forme, Alain Lacroix ?
Alors, Quatuor Hanson, ils sont lauréats de plusieurs concours internationaux, le concours Joseph Haydn de Vienne, le concours de Genève, le concours de Quatuor à cordes de Lyon et concours européen musique d'ensemble de la FNAPEC en 2014. Donc c'est un des jeunes Quatuor à cordes qui est en train de monter sur le paysage français. On a véritablement en France maintenant une vraie école de Quatuor à cordes. Bon, j'ai la chance aussi de travailler en étroite collaboration avec Pierre Corsilus, de Pro Quartet en France, qui est une association, une école qui fait la promotion des quatuors à cordes, avec à la fois des cours, à la fois un accompagnement de masterclass, à la fois une recherche de concerts. Ils ont travaillé avec nous depuis 2 ans maintenant sur le festival, et c'est vraiment intéressant. Donc on est en train de travailler, et moi je suis vraiment ravi de voir cette école de chambristes. Il y a 20 ans, ce n'était pas le cas en France, et là maintenant, voilà, je viens d'apprendre que la jeune Chilem vient de regagner le quatuor ébène. Pendant quelques temps, il leur manquait le quatrième membre, ça y est. Donc, on voit que On a cette immense école entre les Ébènes et les Modigliani, vraiment en tête maintenant, à Rhodes maintenant. Et puis après, bon, les trios qui suivent, j'ai eu Zadig, il y a quelques...
Zadig, oui.
Qui est exceptionnel à l'heure actuelle.
Le trio Nicolas Saint-Yves
voilà,
aussi, je sais.
Voilà, qu'on a fait, etc. Je pense qu'on a véritablement une école de chambristes et on en est ravis.
Et puis, il y a beaucoup de Toulousains dedans, en plus.
Oui, mais c'est...
On
c'est...
est d'autant plus ravis.
Non, mais justement, en avril, je travaille avec Sarah Descamps et Vincent Mussa, qui est la nouvelle génération, les deux derniers, là, qui arrivent et qu'on est en train de sentir, quoi.
Alors, je voulais juste revenir sur l'intitulé de ce concert du Quatuor Hanson, En miroir. Donc, En miroir, le Quatuor à cordes de Debussy, ça, je pense que la plupart des gens le connaissent. Et puis, le Quatuor à cordes Métamorphose Nocturne de Ligeti, ça vous dit quelque chose?
C'est le premier Quatuor, c'est ça? Oui, c'est le premier,
tout à fait.
C'est sûr que ce sont des univers nettement en référence à Bartok pour Ligeti, hein, dans ce premier Quatuor, hein, duquel il s'éloignera. Bon, Bartok, c'est la référence première de Ligeti, dans beaucoup des pièces pour piano également, très intéressantes. Et c'est vrai que c'est très bien de mettre en miroir ces deux musiques, peut-être Ligeti très structurées, un Debussy qui est encore partiellement classique, hein, avant qu'il devienne plus libre, qu'il travaille plus sur voilà, les structures de motifs variés. Là, il est encore dans des phrases plus longues, dans des structures plus classiques, en quatre mouvements. Deux quatuors, effectivement, qui est très intéressant de comparer.
Je pense, effectivement, ça va être un concert à ne pas rater pour ceux qui aiment le quatuor à cordes. Et bien après, le quatuor Hanson, la semaine suivante, concert le mardi 27 mars à 18h15, toujours aux abattoirs, pour une carte blanche au conservatoire. Vous avez évoqué tout à l'heure ces rendez-vous. Rendez-vous qui existe depuis le début de la saison à la Salle Bleue. Alors là, il s'agira d'un quatuor à cordes de Schubert, le 13e pour être précis, également connu sous le titre de Rosamund. Je voulais savoir comment ça se passe, le choix des élèves qui se produisent dans le cadre de ces programmes et le choix du programme lui-même? C'est vraiment une carte blanche totale?
Oui, c'est une carte blanche totale. Souvent, et c'est là où c'est intéressant, je crois que vous le savez tous, ce sont des jeunes qui vont se présenter au supérieur. Et souvent, dans la mesure où ils ont l'opportunité d'une salle, ça leur donne l'interface avec un vrai public, et donc ils rodent le programme en fait du conservatoire. Et ça, c'est très bien. C'est souvent leur premier cachet, c'est souvent la première présentation sur une scène.
En public,
de façon, dans une condition de concert et professionnelle. Et ça, c'est super, moi. C'est frais, c'est bon, alors avec tout ce qu'on peut imaginer, il peut y avoir des accros, il peut y avoir des choses, mais ils sont dans une... Vous y étiez, je crois. Hein.
J'étais la dernière, absolument.
Voilà, donc voilà. Bon, bah, et c'est véritablement le conservatoire qui choisit, et les profs qui choisissent avec eux le programme.
Effectivement, il y a cette fraîcheur dont vous parlez qui est toujours très agréable à découvrir, même s'il peut y avoir quelques accros. Ça fait partie du jeu parce qu'il y a quand même, je pense, pas mal de stress pour eux.
Oui.
Surtout pour celui ou celle qui passe en premier.
Oui.
Bon, le mardi 3 avril, donc mardi suivant, encore à 18h15 aux abattoirs, concert du duo formé par la violoniste Sarah Descamps et le pianiste Vincent Mussa. Vous en avez parlé il y a quelques minutes. Alors, et ce programme s'appelle Accords féminins. Oui. Et comme on peut s'y attendre, on y trouve que des compositrices.
Oui, on a imaginé tout ce mois-là autour du programme que Nathalie et Philippe vont faire au Capitole qui s'appelle Portrait de femme. Donc j'ai voulu qu'on travaille ce mois-là tout à fait particulièrement sur ou des compositeurs-compositrices ou des compositeurs-femmes. Donc j'ai demandé, c'était le cahier des charges qu'on a donné aux jeunes, de travailler sur cette thématique. Et vous savez que les quotas sont importants, puisque j'étais moi-même dernièrement jury pour les attributions de subventions d'État pour les jeunes ensembles. Et une compositrice a demandé la parole en disant qu'il serait important maintenant qu'il y ait des quotas quand un ensemble demande de l'argent à l'État, pour qu'il y ait une part importante de compositrices féminines qui soient aussi référencées, etc. Donc voilà. Mais on a des compositrices contemporaines. On a Graziane Finzi, que vous devez bien connaître, j'imagine.
Ah oui, oui.
On était ensemble au jury de
Mélodie Française,
de Mélodie Française
il y a quelques mois. Oui.
Il y a quelques mois. Bon, et puis c'est quelqu'un qu'on connaît bien dans le paysage français.
Oui, je l'ai effectivement très bien connu il y a quelques années. Une personne très sympathique. Hein.
Alors elle, il y aura son œuvre Phobie, ça s'appelle Phobie, pour violon seul, qui sera donc au programme. Et puis, bon, bah, sans surprise, on trouve Clara Schumann, Fanny Mendelssohn.
Oui, ça c'est vraiment bien. Moi, je suis ravi que Fanny Mendelssohn soit inscrite. Et puis, Marguerite Canal.
Marguerite Canal, voilà. Née et morte à Toulouse, d'ailleurs.
Ben, voilà.
Il y a pile 40 ans, parce qu'elle est morte en 78.
Voilà.
Il y aura sa sonate pour violon et piano. Et puis, il y a Lily Boulanger, morte elle aussi, ben, il y a 100 ans. En 1918. Ouais.
Et là, les jeunes interprètes, c'est pareil. Vous me dites comment je coopte, comment je cherche. Tout simplement, Thibaut m'a dit, tiens, il faut écouter Vincent. Vincent est au conservatoire supérieur maintenant.
C'est Thibaut Garcia,
oui. Donc Vincent est au conservatoire supérieur et Sarah aussi, qui est toulousaine, est au conservatoire, est au supérieur. Donc c'est assez intéressant d'être là. le rôle d'une saison bleue, dans la mesure aussi, c'est une saison de la municipalité de Toulouse. Quand on parle de l'argent bien placé, voilà, c'est au moment où les jeunes commencent qu'on doit les aider. Et je pense que l'argent est bien placé et voilà, peut fructifier de cette façon-là.
Il faut commencer par être là avant d'être là-bas.
Oui, non, mais je crois. Et puis c'est bien, on met le pied à l'étrier. Après, ben voilà, ils partent. Je suis ravi que notre amie Anaïs chante ce mois-ci.
Dans Carmen.
Dans Carmen, voilà. J'étais à sa sortie de conservatoire. J'ai donné les prix à la sortie du conservatoire. J'ai suivi dans tous les concours qu'elle a fait. Et je suis vraiment ravi parce qu'elle le mérite. Elle va chanter La fille du régiment cet été à Montpellier. La carrière est démarrée. Donc voilà, et Thibaut, c'est pareil. Je pense qu'il y a, c'est au moment où ces jeunes ont besoin de nous, puis après, bon, bah, ils grandissent, ils vont dans les choses plus prestigieuses et on a gagné. Mais on est content, on est heureux, on a fait notre devoir.
On va écouter un petit extrait du programme que vont jouer Sarah Descamps et Vincent Mussa. Je voulais qu'on écoute Lily Boulanger parce que j'ai toujours trouvé qu'il y avait des pièces charmantes dans l'œuvre de cette compositrice. Il y en a une qui s'appelle Cortège. Voici la version pour violon et piano. Cortège, la version pour violon et piano de cette petite pièce composée par Lily Boulanger, une de celles au programme du concert Accord Féminin que donnent Sarah Descamps et Vincent Mussa mardi 3 avril à 18h15 au musée des Abattoirs et au même endroit, à la même heure, mais une semaine plus tard, le mardi 10 avril, c'est Guillaume Coppola qui se produit, un pianiste que vous programmez depuis déjà pas mal d'années à la Lacroix.
Oui, c'est quelqu'un que je suis. J'aime beaucoup ce que Guillaume fait, souvent sur des programmes qui sont ambitieux. On a travaillé sur Montpoux il y a quelques années sur les musiques du silence. Il avait fait tout un programme qui a bien marché, qui a beaucoup tourné et qu'il est en train d'enregistrer. Donc je suis assez content du résultat. C'est un pianiste extrêmement sensible et c'est quelqu'un qui travaille, et ça j'aime beaucoup, qui travaille ses récitals. Là, il travaille vraiment en miroir, miroir amoureux, Robert Schumann, voilà, et Clara Schumann.
Et Robert Schumann.
Voilà, donc c'est véritablement, comme il a travaillé les musiques du silence, sur véritablement une thématique qui est intelligente et qui veut dire quelque chose.
Comme on parle de Guillaume Coppola, je voudrais qu'on parle tout de suite de son complice, parce qu'il joue souvent à quatre mains tous les deux, Hervé Biot. Alors lui aussi, que vous recevez depuis des années.
Oui, là, il vient...
Le 5 juin.
Voilà, il vient dans un programme qui est un programme forêt, qui est quand même quelque chose qu'il a beaucoup défendu. Et Hervé, c'est pareil, il a démarré très très tôt à Toulouse, avant moi, il suivait des cours à Toulouse, enfin, il a une grande histoire avec cette ville. Il a voyagé dans le monde entier, il était sur la Jeanne d'Arc à l'époque, donc c'est quelqu'un qui a été à l'encontre des publics, et c'est un pianiste extrêmement sensible dans la façon aussi dont il mène les programmes. Je suis assez attentif, moi, à la façon dont on construit un programme.
Donc lui, ce sera le mardi 5 juin à 18h15 à la chapelle des Carmélites. Forêt et les romantiques. Alors, on en arrive à une des grandes dates de la saison, lundi 16 avril à 20h. Le concert du duo Nathalie Dessay, Philippe Cassard au Théâtre du Capitole. Là, les femmes sont encore à l'honneur, puisque le programme a pour titre Portrait de femme. Même si toutes les œuvres qu'on y trouve, il y en a beaucoup, sont composées par des hommes. L'idée de programmer ce duo célèbre, c'est une suggestion, Philippe Cassard ?
Oui, tout à fait. Philippe a deux concerts avec des invités cette année. On l'a vu il y a très peu de temps avec le trio David Grimal et Anne Gastinel sur les trios de Beethoven. Il était venu déjà avec eux deux sur les trios de Schubert. Et là, Nathalie, on connaît l'affinité qu'ils ont ensemble parce que c'est véritablement un duo.
Il y a un moment qu'ils travaillent tous les deux.
Voilà, hein, et oui. Je pense qu'elle le dit d'ailleurs elle-même, si elle a accepté de travailler la mélodie, c'est parce qu'il y a eu Philippe aussi avec elle. Donc je pense que c'est véritablement un duo. Et là, il tourne ce programme qui s'appelle Portrait de femme. Nathalie fait maintenant moins d'apparitions dans le milieu lyrique, sinon plus. Par contre, elle se produit en concert et sur les programmes de Mélodie et de Leader. Et donc là, ils ont sorti ensemble.
C'est un programme
récemment.
Qui est charnu, j'allais dire.
Oui, ils ont sorti ensemble un récital Schubert assez beau, qui est sorti l'année dernière, qui s'appelle d'ailleurs Schubert, tout simplement, et qu'ils ont vraiment travaillé ensemble. Elle le dit d'ailleurs elle-même, Schubert est mort à 31 ans, mais c'était une vieille âme, et sans doute me fallait-il vivre et mûrir pour éprouver l'éblouissement face à ces mélodies si délicates, si inventives, si poignantes et variées, et quel plaisir d'en découvrir sans cesse de nouvelles. Il y en a près de 600 aux côtés de Philippe Cassard, qui fréquente Schubert depuis si longtemps, il a pu m'accompagner tel une petite enfant dans cet univers singulier. Voilà, c'est une très très belle découverte, et il n'y a bien entendu pas que Schubert, puisque dans ce programme, elle revient à l'opéra, avec Mozart, l'air de Suzanne, des Noces de Figaro, la flûte, avec l'air de Pamina, à l'acte 2. Elle va visiter quelqu'un qui est rare. Je ne sais pas si vous me direz, les spécialistes de l'art lyrique, c'est Pfitzner. Donc on connaît son Palestrina, mais on connaît beaucoup moins les mélodies, et il en a écrit énormément. Donc là, ils vont faire Altweise, la chanson perpétuelle de Chausson, bien évidemment des préludes de Debussy, des mélodies, dont Regret sur un poème de Paul Bourget, et Coquetterie posthume, et l'air des bijoux
de Gounod.
Et quelques biches, je pense, aussi. Donc voilà, c'est un superbe programme. Nathalie, je crois, n'est pas revenue à Toulouse, sinon dans la série des grands interprètes pour l'opéra. Je crois qu'elle a fait ses adieux à Toulouse.
Manon.
Voilà.
2013.
Donc voilà, et sous l'air Plasson, elle avait fait Hamlet. Donc je pense que c'est un très très beau rendez-vous et c'est un très beau cadeau. Donc on le fait en partenariat avec le Théâtre du Capitole. Et l'allocation se fait directement au Théâtre du Capitole ou à la FNAC, mais vous pouvez acheter vos places d'ores et déjà au Théâtre du Capitole.
Vous évoquiez à l'instant Regret, mélodie de Claude Debussy, composée sur un poème de Paul Bourget. On va écouter cet air chanté par Nathalie Dessay. Regret, mélodie de Claude Debussy sur un poème de Paul Bourget, interprété par Nathalie Dessay. Une des nombreuses pièces au programme du récital que donne la chanteuse, accompagnée au piano par Philippe Cassard, lundi 16 avril à 20h au Capitole. Philippe Cassard reviendra le mardi 15 mai à 18h15 et 21h à la Chapelle des Carmélites pour une nouvelle session des notes du traducteur consacrée à Franz Liszt. Je voulais qu'on dise un petit mot avant de terminer sur le concert du 22 mai, celui de Sarah Yankou, la violoncelliste de solo de l'Orchestre National du Capitole et du pianiste David Bismuth. 18h15, Chapelle des Carmélites, mélodie hébraïque.
Alors là encore, je suis très sensible à ce type de concert. D'abord par le programme, qui est un programme extrêmement original, extrêmement exigeant. Et c'est sûr que ce sont des compositeurs que nous connaissons peu. J'ai déjà accueilli plusieurs fois Sarah et David aussi d'ailleurs, ou séparément ou ensemble. Ou Sarah aussi dans des formations de musique de chambre. Pour moi, c'est une superbe interprète. Et puis, il y a une intelligence musicale qui est là et qui est absolument remarquable, qui est alliée avec un vrai sens de la sensibilité. Et c'est vrai que c'est un programme extrêmement délicat et extrêmement beau. Et ça me plaisait de défendre avec eux et de les accompagner dans cette défense de cette musique qui est vraiment peu connue et peu défendue.
Oui, parce que s'il y a des compositeurs très connus dans ce programme, comme Ravel avec son superbe Kadish, il y a Shostakovich et Max Bruch, les autres sont moins connus grand public, voire totalement inconnus pour certains.
Tout à fait. Donc là, j'engage vraiment les gens à faire preuve de curiosité, parce que je pense qu'il faut cette curiosité, mais pour découvrir cette musique qui est vraiment absolument superbe, et qui n'est pas une musique confessionnelle, qui est vraiment une musique ouverte.
Oui, oui, je pense que tout le monde peut l'apprécier, quelle que soit son origine ou sa pratique religieuse. Très beau concert, donc, le mardi 22 mai à 18h15 à la Chapelle des Carmélites. Nous arrivons malheureusement au terme de cette émission. Il y a 3 autres concerts encore dans la saison. Je vous laisse en prendre connaissance sur le site de Toulouse d'été à la rubrique La Saison Bleue. Merci beaucoup à vous 4 d'avoir répondu à mon invitation et d'avoir brillamment animé ce numéro à mes côtés. Je rappelle que le prochain concert de La Saison Bleue a lieu mardi 13 mars avec 2 séances à 18h15 et 21h à l'auditorium du Musée des Abattoirs. C'est Philippe Cassard qui le donne pour un hommage à Claude Debussy. Vous pouvez réserver vos places et avoir des détails concernant les concerts suivants sur le site www.toulousedt.org à la rubrique La Saison Bleue. Je rappelle également ce samedi 10 mars à 18h, concert Happy Hour de l'Orchestre National du Capitole à la Hallograin. Ils vont jouer la suite du Lac des Cygnes. Renseignements et réservations sur www.onct.toulouse.fr. Lundi 12 mars à 20h30 au Théâtre Garonne, concert du trio Les Esprits d'Adam Laloum avec un très joli programme de musique et de compositeurs d'Europe de l'Est et de Russie. Vous pouvez vous informer et réserver vos places sur le site www.theatregaronne.com. À Audissune, mardi 13 mars à 20h30, concert Stabat Mater de Pergolèse donné par les passions de Montauban et les chanteurs Magali Léger et Paulin Bungen. Vous pouvez là aussi vous renseigner et réserver sur www.audissune.com. Magali Léger que vous pouvez retrouver le lendemain, mercredi 14 mars à 20h30, avec l'ensemble Rosa Solis pour le concert qu'elle donne à l'église Saint-Exupère dans le cadre de la saison des Arts Renaissants. À ce propos, si vous venez accompagner, les Arts Renaissants offrent 2 places à 40€ au lieu de 56€. Renseignements et réservations sur www.art-renaissant.fr. Merci encore à Christophe Aubry d'avoir assuré la régie technique de cette émission qui est disponible et réécoutable en podcast dès aujourd'hui sur le site de Radio Présence. Je rappelle que Mélomanie est diffusée les vendredis à 19h ainsi que les samedis à 10h. Merci encore de votre fidélité et très bonne semaine musicale à tous.